L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors que la France est en train de découvrir que le réchauffement climatique qu'on annonçait est une réalité, je vous propose de nous retrouver au frais d'une librairie, avec quelqu'un qui est militant écologiste depuis de très longues années. Il fait partie de ceux qui justement avaient dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose pour la nature et pour les hommes qui y vivent. Ce monsieur, je ne suis pas allé très loin pour le rencontrer, il habite près de chez moi. Je lui achète très souvent des livres. C'est un artiste, un restaurateur de meubles et d'objets, un bibliophile donc, et un militant de 75 printemps. Avec lui, il y a le recul des années qui va nous permettre de voir un petit peu ce qu'il a vécu, de voir ce qu'il pense des choses présentes. Et ce monsieur s'appelle Jean-Marc Luce. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Alors toi Jean-Marc, 75 ans, écologiste depuis très longues années, c'est-à-dire vous n'êtes pas nombreux dans ce pays. Qu'est-ce qui t'a amené à l'écologie ?
Probablement mon enfance à Luce-Saint-Sauveur et le fait d'avoir pour voisin une famille de tout petits paysans, la famille Noguet, qui avait, je ne sais plus, une soixantaine de brebis, quatre vaches et trois cochons. Et étant donné que j'étais souvent mieux chez eux que chez mes parents, très vite je m'étais impliqué dans l'activité avec d'ailleurs d'autres de mes frères. Et donc ça m'a fait connaître la réalité de l'agropastoralisme de montagne, qui du coup m'a fait découvrir aussi, évidemment, un rapport à la nature et un certain nombre de pratiques que mon statut initial m'aurait laissé totalement ignorant si je n'avais pas eu la chance d'avoir ces voisins et cette famille à côté de chez moi, quoi.
Donc c'est ce rapport à la nature qui t'a donné envie de la protéger, de la connaître, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de la défendre ?
D'abord, je trouvais qu'ils avaient un mode de vie qui était... Alors, évidemment, la réalité économique, la grande difficulté économique dans laquelle ils devaient être, à l'âge que j'avais, je ne la connaissais pas, je ne la soupçonnais pas. Mais pour nous, les enfants puis adolescents, c'était une espèce d'idéal de vie où on est en presque autarcie alimentaire, dans un respect absolu des rythmes naturels, avec très très peu de consommation énergétique, très peu d'apports mécaniques, etc. C'est l'époque où on transportait tout avec un mulet d'abord, il faut se dire. Quasiment pas de voiture, des heures de marche en montagne, et puis le système étagé de prairies de fauches en fond de vallée, granges intermédiaires, et puis le lâcher des bêtes en haute montagne, et qui a fait qu'en plus ça a débouché pour moi sur la passion de la haute montagne et de l'alpinisme.
Qu'est-ce qui après ton enfance t'a donné envie, parce qu'après tout beaucoup de gens sont allés dans les fermes étant enfants, ont découvert cette espèce de liberté. Qu'est-ce qui une fois adulte t'a donné envie de devenir militant ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ?
Il y a eu mai 68, j'avais 17 ans, c'est sûr que moi je sortais d'une famille... bien conformiste, gaulliste, bourgeoise. Et mai 68 a tout fait péter, évidemment, et puis ça a été l'occasion de rencontres. C'est là que d'ailleurs, si je me souviens bien, le mot écologiste a commencé réellement à apparaître, et d'ailleurs a donné lieu peu de temps après à une première candidature écolo à la présidentielle. Mais moi j'étais plutôt... du côté des situationnistes qui avaient également totalement intégré cette question. Alors ça, c'était le côté remise en cause de la vie urbaine et du système industriel.
Et de la pollution.
Moi, je ne peux pas dire qu'à cet âge-là, j'en avais conscience. Et je ne vivais pas dans des conditions qui me permettaient de le mesurer directement. Mais c'est vrai que la question des pollutions... D'ailleurs, là-dessus, oui, c'est vrai que quand j'entends dire que... Enfin, combien de fois des anti-écolos me disent « Mais de toute façon, tout ça ne sert à rien, rien ne change. » En aparté comme ça, moi, je me rappelle d'une chose. Quand j'étais gosse, à Luce en particulier, mais partout où j'ai vécu ensuite, les déchets des familles finissaient dans le gave à Luce
Et le Gave, c'est la rivière.
Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le nom des torrents et des rivières pyrénéens, en tout cas de ma vallée. Mais ou dans le fleuve, ou dans l'étang, enfin peu importe, le rapport à la gestion des déchets, à l'époque, n'était absolument pas pris en compte, quoi. Et ça, c'est vrai que ça a fait partie des questions qui m'ont certainement éveillé. Et puis, la dimension alors scientifique de l'écologie, qui aujourd'hui a pris le pas chez moi sur toute autre forme de nostalgie, de mode de vie, etc. Ça c'est venu petit à petit. Alors je dirais que moi, étant bac moins 3, mon université, ça a beaucoup été France Culture pendant des décennies. J'avais un travail manuel qui me permettait de l'écouter énormément, et c'est là que petit à petit, j'ai vu émerger la science écologique. Et puis, quelques rencontres, évidemment, hein, aussi bien sur la question, par exemple, de la production agricole. On a eu la chance de connaître quelqu'un comme Pierre Rabhi et puis d'autres, mais aussi des tentatives dont je ne comprenais pas, jeune, tout de suite l'intérêt, mais rétrospectivement, évidemment, tout à fait. Moi, je me souviens, on essayait de bricoler des chauffe-eau solaires avec des tuyaux noirs en serpentin, etc. Tout ça, c'est des choses qui, petit à petit, sont rentrées et m'ont fait prendre conscience très clairement qu'il fallait absolument changer de mode de vie.
Alors, si tu avais une définition à faire de l'écologie, quelle serait-elle ?
C'est la question des écosystèmes. L'homme faisant partie intégrante de cet écosystème, donc il ne s'agit pas d'écosystème qui exclurait l'homme, au contraire, c'est même l'enjeu de l'humanité qui est en jeu dans cette histoire. C'est donc la chaîne des solidarités, à la fois des espèces animales, végétales, etc., et qui garantissent le meilleur état possible des ressources dont l'homme a besoin pour vivre. C'est cette prise de conscience-là aujourd'hui qui me semble la question fondamentale. Et puis deuxièmement, ne pas casser le jouet. Et ça, c'est la question climatique. Hein. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne qui vient rajouter ne fût-ce qu'un gramme dans les conséquences de l'activité humaine sur le dérèglement climatique, et évidemment, il faut en prendre conscience et essayer d'être le plus en accord possible, tout en sachant évidemment qu'être parfait, on sait très bien que ce n'est pas possible, mais essayer de se rapprocher le plus possible à travers notre consommation et nos pratiques diverses, aussi bien le chauffage de son logement, à travers ses activités, etc., le plus près possible de cette conscience-là. Et puis enfin, c'est être acteur dans ses choix de consommation. L'économie circulaire me semble une des perspectives les plus intéressantes à court terme, à laquelle chacun peut participer, de manière à limiter les impacts de l'activité humaine sur les écosystèmes.
Alors là, on est sur quelque chose d'une démarche très individuelle, mais il y a quand même une dimension collective. On sait que si vraiment le bilan carbone de tous les Français était bon, on ne réduirait que de 25%. Il y a quand même il y a un système peut-être aussi à changer. Tu as fait de la politique, il n'y a rien à changer à ce niveau-là ou tu es complètement résigné ?
Oui, alors évidemment, tu fais bien de m'y ramener. Avec l'âge, on n'a plus toujours l'agilité intellectuelle qui permet de dire d'emblée tout ce qu'il faut dire. Il est évident que nous sommes dans un système qu'on devrait d'ailleurs chaque fois rappeler, qui s'appelle le système capitaliste, qui est basé sur l'hyperconsommation et qui est cause majoritaire de toute la chaîne des événements qui nous entraîne vers la catastrophe. Donc, alors je me définis plus comme marxien que comme marxiste.
Quelle est la différence ? Je ne connaissais pas marxien. Quelle est la différence entre marxien et marxiste ?
Rien à voir avec les martiens, je précise. Marxien, ça veut dire que je reprends totalement à mon compte l'analyse que Marx fait des rapports de force dans la société, mais en revanche ne se prononce pas sur les solutions que les marxistes ont ensuite mis en œuvre, y compris les pires abominations qu'on a pu connaître à travers des pays comme l'URSS, etc., quoi, voilà. Ou la Chine, Et ces centaines de millions de morts, leurs centaines de millions de morts.
Mais justement, à cette époque-là, dans les années 60, quand tu as commencé à t'intéresser à l'écologie, les écologistes étaient en général, je ne sais pas d'ailleurs, tu vas me le dire, soutien du communisme, parfois au Parti communiste ou pas du tout.
Bah, à l'époque, le Parti communiste était productiviste. D'ailleurs, par exemple, le hasard fait que j'ai eu comme client Jean Ferrat, qui à l'époque était tout à fait communiste. Et c'était marrant de voir le décalage entre ses chansons, qui étaient vraiment un ode à la nature, et par ailleurs, le mauvais traitement qu'il me réservait en tant que jeune bourgeois sensibilisé à la question écologique. Et là au contraire, il m'envoyait balader tout à fait fortement, quoi. C'est-à-dire qu'il était fidèle à la ligne productiviste du PC. Et quant à moi, j'ai toujours eu la chance, mais souvent ce n'était pas lié à un état de conscience, mais plus au hasard des rencontres, des affinités, de n'avoir jamais été maoïste, de n'avoir jamais été communiste. Et aujourd'hui, je dois quand même saluer une chose, c'est que les quelques rares communistes qui restent ont quand même fini pour la plupart par intégrer la conscience écologique à leur discours. Donc aujourd'hui, évidemment, je ne jetterai plus l'anathème sur eux. Mais en tout cas, à l'époque, par contre, oui, il y avait un clivage énorme entre les communistes et l'écologie politique, oui.
Alors ici, on est dans ton atelier, dans ta boutique, avec beaucoup de livres anciens, parce que l'économie circulaire, tu en as parlé, mais tu en es un acteur premier. Il y a beaucoup de disques aussi. On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter ?
Toute ma vie, j'ai été extrêmement sensible aux musiques traditionnelles du monde entier. C'est-à-dire, ça va du Japon à l'Afrique noire, en passant par l'Asie centrale, l'Inde, etc., etc.
Et alors, qu'est-ce que tu veux nous faire écouter ?
Oh ben, moi, du shakuhachi japonais, par exemple. Je te laisse le soin d'en trouver.
Alors nous sommes de retour avec Jean-Marc Luce, donc artiste, bouquiniste, amateur et collectionneur de beaux objets, de beaux livres et de tout support culturel permettant d'élever l'âme. Toi qui as ce passé, ce vieux passé militant, tu as évidemment été dans beaucoup de combats. Si tu ne devais en garder qu'un ou deux, lesquels tu aimerais partager avec les auditeurs ?
Celui que, disons, qui a été au sens propre le vrai combat, au sens oui, propre, c'est-à-dire y compris dans les rapports avec les forces de l'ordre, ça a été le combat antinucléaire. C'est aussi celui qui, dans mon passé, laisse les traces les plus ambiguës dans la mesure où ma position, si elle n'a pas évolué sur le fond, c'est-à-dire je continue de considérer que le nucléaire est dangereux à la fois en termes de santé publique, s'il est mal géré, mais aussi par rapport à la démocratie, dans la mesure où une gestion d'État de la ressource et une exclusivité de la production d'énergie à travers le nucléaire, ben c'est très antidémocratique. Mais la question climatique, la question de la décarbonation fait que, petit à petit, évidemment, et ne serait-ce que pour la perspective d'une transition, c'est peut-être illusoire, mais en tout cas, on est confronté aujourd'hui à ce besoin, de manière à décarboner. Bon, il y avait à l'époque, je vivais dans la vallée du Rhône, donc ça a été contre la construction de la centrale de Cruas. Ça a été aussi, surtout, le surrégénérateur de Creys-Malville, où j'ai eu la malchance d'ailleurs de me trouver très proche d'un des militants qui ont été tués, où il y avait véritablement, et c'est là qu'on voit d'ailleurs, je reviens à cette question démocratique, comment l'État, quand son autorité est contestée, est capable de la barbarie policière la plus violente, quoi. Donc ça a été ça. Après, il y a une chose aussi que je dois dire, c'est qu'un engagement politique militant dans un parti, bon, moi j'en ai eu deux, c'est-à-dire je suis d'abord allé naïvement au Parti Socialiste, dont j'ai l'honneur d'avoir été ultérieurement exclu. Puis Europe Écologie, il se trouve que la naissance d'Europe Écologie est intervenue au moment où j'étais exclu du Parti Socialiste, donc tout coïncidait bien.
Pourquoi tu as été exclu du Parti Socialiste ?
La secrétaire de section ne supportait pas les têtes qui dépassaient du rang, tout simplement, c'est une question d'autorité personnelle. Bon, bah, du coup, voilà des problèmes de personnes. Mais, comment dire, il y avait surtout l'idée que l'écologie n'était pas encore à l'ordre du jour dans ce Parti Socialiste à ce moment-là, et donc était considéré comme une indiscipline, on peut dire, voilà. Donc j'ai adhéré à Europe Écologie dès les premiers jours, avec la chance d'y connaître un tas de personnes qui, intellectuellement, m'ont beaucoup fait avancer, comme José Bové, comme les deux frères Cohn-Bendit, Gabriel, que peu de gens connaissent, et bien entendu, son frère beaucoup plus connu, et quantité d'autres. Ce que je retire quand même de l'expérience des partis, c'est qu'il est impossible d'être totalement d'accord tout le temps avec la ligne. En revanche, c'est un excellent lieu d'apprentissage de l'ensemble des questions qui se posent sur toutes les questions de gestion de la communauté humaine, de réflexion politique, aussi bien nationale qu'internationale. Et donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est une expérience toujours très utile.
C'est beaucoup plus intéressant que réfléchir tout seul dans son coin et d'être persuadé qu'on détient la solution et que tous les autres sont des cons.
Ça, c'est vrai. En revanche, ce qui, moi, m'a déterminé à fuir, et ceci aujourd'hui définitivement, les organes politiques, c'est cette obligation d'être en toutes circonstances aligné sur la ligne officielle. En fait, il est extrêmement difficile d'être divergent, d'être critique. Bon, voilà, là, c'est une question de tempérament personnel. Moi, j'ai rencontré des militants moines-soldats. Ils sont pas marrants, mais souvent très efficaces. Moi, je n'ai pas les qualités requises pour être un moine-soldat.
Quelle évolution tu as vue entre un militant écologiste des années 60 et un militant écologiste d'aujourd'hui ? On ne parle pas de politique, là, on parle d'écologistes militants. Il y en a beaucoup qui viennent chez toi, qui ici à Bagnères, tu es dans le coin où les jours de marché se retrouvent beaucoup de jeunes écologistes. Qu'est-ce que tu as vu comme changement dans la démarche et dans l'action de ces personnes ?
Je me souviens, au moment des grosses manifs antinucléaires, Il y avait beaucoup de rigolade, il y avait beaucoup d'optimisme, on était sûr de gagner d'ailleurs. On était certain que le monde des années à venir allait être beaucoup mieux que celui d'où on sortait. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, l'éco-scepticisme, je crois qu'il y a un autre terme, ou pessimisme, ou l'éco-anxiété, ont énormément gagné. Il n'y a plus beaucoup de place pour la rigolade. Et moi, j'ai retrouvé récemment, c'est rigolo, j'ai retrouvé une photo de moi dans une manif à Naussac. C'était pour protester contre des créations de barrages qui étaient destinées justement au refroidissement de centrales nucléaires. On avait sur la chemise, j'en ai revu la photo, on avait un petit macaron. C'était le groupe pour la défense des arbres fruitiers. Et je veux dire qu'il y avait une dimension poétique. Voilà, on mettait du poétique dans le politique. Et on croyait aux vertus du poétique dans le politique. Or aujourd'hui, mais peut-être que ça va aussi avec... alors là, c'est le bouquiniste qui a des considérations, enfin le bouquiniste et l'artiste, qui ont des considérations pessimistes. Il y a un tel phénomène de déculturation générale que le poétique, je crains bien que plus personne ne sache ce que c'est, en dehors de quelques rengaines de l'industrie du show business, quoi.
Pour inventer des mondes nouveaux, il faut le vocabulaire, il faut la syntaxe, il faut le langage. Et celui-là, en effet, est largement parti avec la déculturation dont tu parles. Est-ce que tu as l'impression, pas certains l'ont, moi le premier, que les écologistes ont tué l'écologie parfois à être enfermés entre eux, à pas avoir été peut-être du coup moins de soldats aussi, enfin un soldat en tout cas d'écologie dans d'autres lieux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a eu de raté dans toutes ces années militantes, dans ce militantisme écolo?
Oui, alors le bilan que moi j'en tire, et c'est valable pour encore la vie actuelle, qui fait que je me tiens de plus en plus à distance, c'est d'abord la pratique de l'entre-soi. C'est vrai que quand vous avez 20 ans, après tout, vous cherchez avant tout à être heureux avec des gens qui vous ressemblent. Mais finalement, quand le bilan, c'est que vous n'avez pas beaucoup fait changer les choses, vous vous rendez compte que tout simplement, politiquement, pour faire bouger, il faut arriver à toucher d'autres couches de la population. Il faut faire bouger les consciences sur un plan général. Et du coup, cet entre-soi qui se caractérise encore aujourd'hui beaucoup à travers un tas de pratiques, que les anti-écolos qualifient de bobos d'ailleurs. Hein. Bon, eh bien, si vous voulez, moi je ne suis pas très loin de partager cette réticence sur pas mal de points. Et effectivement, quand je vois par exemple des listes citoyennes aux élections municipales apparaître, et que ces listes citoyennes, et c'était le cas dans ma ville, n'arrivent pas à intégrer dans les candidats de gens en dehors du cercle très restreint, soit d'un tiers-lieu, soit d'un type d'activité bien particulier, c'est-à-dire toujours encore une fois cette culture de l'entre-soi, personnellement je n'en peux plus. Puis la deuxième critique que je fais, c'est qu'alors au niveau des stars médiatiques de l'écologie, certaines gagneraient beaucoup, non pas à cesser de penser, parce que leur pensée est utile, mais devraient apprendre à ne plus l'exprimer publiquement. Et là, je vise des personnes très... est-ce que c'est autorisé de le dire? Moi, je pense à Sandrine Rousseau. Je trouve que, sur le fond, elle a souvent raison, mais dans la façon dont elle l'exprime, il n'y a pas de moyen plus efficace pour faire fuir les électeurs de l'écologie politique. Et donc, moi, je trouve ça dramatique. On a été deux ou trois générations à se battre pour installer l'écologie politique dans le paysage politique français. Et on était arrivé à un moment donné à des niveaux de réussite qui étaient quand même extrêmement prometteurs. Et aujourd'hui, on sombre à nouveau dans les abysses des promesses électorales à cause de gens comme ça qui font fuir malgré la qualité initiale de leur pensée. Il faudrait qu'ils comprennent que un laboratoire intellectuel, c'est une chose, mais les porte-paroles doivent être des gens munis d'un bien meilleur sens politique et savoir parler à la population générale et ordinaire et non plus à un cénacle de gens déjà convaincus. La façon de s'en prendre au chef-d'œuvre de la peinture ou de l'architecture, enfin au chef-d'œuvre culturel, en balançant des bols de soupe. Moi, je comprends très bien le symbole qu'il y a là-dedans. Mais est-ce que ceux qui font ça se sont posé la question de savoir si tout le monde est apte à le comprendre, ce symbole? Eh bien, je crois que non, pas du tout.
Je sais que tu as un regard aussi particulier sur le fait que la science actuellement est remplacée un petit peu par la croyance dans le domaine de l'écologie. On pourrait passer des heures avec toi, et ce serait chouette, mais on va arrêter. J'ai quand même une dernière question. J'ai envie de voir, toi qui es entouré de livres, quel est celui qui te semble le plus essentiel quand on veut parler d'écologie?
Oui, ben, le livre fondateur pour beaucoup de gens de leur prise de conscience écolo, en tout cas de la découverte de l'écologie à travers un livre, c'est évidemment Henry David Thoreau, à travers « La vie ou ma vie dans les bois », je ne me souviens plus précisément, et puis le concept de désobéissance civile.
Alors, Thoreau, qu'on écrit T-H-O-R-E-A-U.
J'ai beaucoup lu, et je continue d'ailleurs de disposer, de proposer, les livres d'un tas de pyrénéistes du XVIIIe et XIXe siècle, qui ont été vraiment les grands découvreurs, les explorateurs de la géologie, de la botanique pyrénéenne. Alors souvent des gens venus de tout à fait ailleurs, des Ramon de Carbonnière ou même simplement un explorateur comme Russell, mais qui ont développé une sensibilité extraordinaire au pays magnifique que sont les Pyrénées centrales, quoi.
Donc c'est ce rapport de la littérature. On finira sur ce rapport de la littérature à la nature, à cette naissance d'ailleurs qui précède l'écologie, ces premières personnes qui ont pensé la nature et qui ont ressenti des choses face à elle.
Non, et puis dans la littérature française, moi je repense les souvenirs d'enfance de Pagnol. Moi ça a été quelque chose d'extraordinaire aussi. Je pense aussi à un auteur comme Henri Bosco. Et puis alors, plus récemment, par exemple, ici à Bagnères-de-Bigorre, il y a eu un petit festival sur la thématique de l'eau. J'ai, pendant une semaine, fait une lecture quotidienne d'extraits de l'histoire d'un ruisseau de Élisée Reclus, le grand géographe du XIXe siècle, par ailleurs militant libertaire, qui était un type tout à fait extraordinaire. Ben, voilà des conseils de lecture extrêmement intéressants, quoi.
Merci Jean-Marc Luce et bon vent à toi.
Merci.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.